Après, on a ce qu'on appelle At-Ta'qib. At-Ta'qib, c'est le nom qu'on donne au fait de prier à la fin de la nuit, en groupe, après Tarawih. Qu'on appelle nous communément aujourd'hui Tahajjud de façon générale. Donc on a, pendant le mois du Ramadan, maintenant, la Ada dans certaines mosquées, c'est de faire Tahajjud, comme ils l'appellent, hein, tout le mois du Ramadan. Donc justement, comme ils font, comme ils veulent pas que Tarawih dure trop longtemps pour les gens, alors ils diminuent la quantité, en restant toujours sur 11 rak'a. Et qu'est-ce qu'ils font pour finir le Coran à la fin du mois? Ils prient avant le Fajr. Ils prient avant le Fajr. Et le fait de revenir à la mosquée à la fin de la nuit pour prier en groupe, à ce moment-là, on appelle ça ta'aqib. Et chez les fuqaha, il n'y a pas de mal à cela. Et on a demandé à Anas ibn Malik radiallahu anhu ce qu'il pensait de cette pratique. Il a dit « Innahum la yarji'una illa ila khayr ». Ils ne font que revenir vers du bien. Il n'y a pas vu de mal. Contrairement à ce que certains peuvent prétendre, comme quoi c'est une innovation. Anas l'a dit, ils ne font que revenir vers du bien. Les Hanabila disent qu'il n'y a pas de détestabilité d'agir ainsi. Donc, il faut, comment dirais-je, faire attention au jugement qu'on donne à certaines pratiques lorsqu'on ne connaît pas l'avis des salafs à leur sujet. Donc, pas de mal, même si on a fait le witr avec l'imam dans Tarawih, de revenir à la fin de la nuit à la mosquée et de prier encore cette prière-là en groupe. Est-ce que c'est khas bil ashr al-awakhir, là? Est-ce que c'est, comment dirais-je, propre aux 10 dernières nuits? Non, on peut faire ça tout le mois de Ramadan. Et on avait déjà dit ça dans d'autres cours, mais il était connu depuis longtemps chez beaucoup de musulmans que l'imam à la mosquée avec les gens faisait plus d'une khatma. Il finissait le Coran plus d'une fois. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, Al-Haramayn, Mekka et Al-Madina, ils faisaient deux khatma. Ils en faisaient deux. Une dans Tarawih et une dans Al-Ashr al-Awakhir, dans Al-Tahajjud. Ils en faisaient deux. Ils lisaient à peu près 2,5 hizb par nuit dans Tarawih, tout le mois. Et lorsqu'ils arrivaient aux 10 dernières nuits, après Tarawih, ils lisaient 6 hizb toutes les nuits, dans les 10 dernières nuits. Ce qui fait qu'ils lisaient le Coran en groupe, dans la prière, deux fois, tous les ans. Si t'avais le courage, entre guillemets, moi je dis courage, même si pour moi c'est pas le bon terme, mais si tu avais la volonté de suivre l'imam dans toutes ses raka'at, eh bien rien que dans la prière, tu auras lu le Coran deux fois, sans compter les raka'at, ou du moins les khatamat que tu es censé faire en dehors de la prière. Et c'est dommage quand on entend aujourd'hui que dans certaines mosquées, dans des pays musulmans, on ne finisse pas le Coran. Et vous verrez que, bon là, alhamdoulilah, on revient petit à petit dans la période hivernale. Donc, dans peut-être 2-3 ans, on sera complètement à l'heure d'hiver pour le Ramadan. Et j'espère que Allah nous permettra de faire revivre cette sunna de khatma. D'accord? Moi, personnellement, j'en ai l'intention. Je vous préviens. Donc, travailler les mollets en attendant, hein, et les cuisses, ça va. Inch'Allah, c'est le but, mes frères. Sachez qu'il y a énormément de récompenses dans le fait de faire revivre des sunan matrouka, délaissés. Comme délaisser une sunna, comme les salafs disaient, engendrer une innovation entraîne forcément la mort d'une tradition. Et donc il y a un mal dans le délaissement des sunan. Et forcément, il y aura un bien dans leur résurrection. Il y a un hadith, il est daif, mais les salafs disent que son sens il est correct. C'est que « C'est man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani fahuwa ma'iya fil jannah. » Celui qui a fait revivre ma tradition, c'est qu'il m'a aimé, et celui qui m'a aimé, il sera avec moi au paradis. Donc, c'est vraiment important, en espérant que, inshallah, vous aussi, Allah vous permette d'apprendre le Coran, de continuer d'étudier, puis qu'un jour vous, à votre tour, deveniez imam et que ces traditions-là se répandent et se propagent partout, même en France, même dans des pays où l'islam il est combattu, l'islam il est délaissé, l'islam il est transformé. Il y aura toujours dans la Oumma un groupe de personnes qui sera sur l'islam pur. Et le meilleur moyen d'être dans ce groupe-là, c'est de faire comme les salafs faisaient. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il disait « La yasluhu amru akhiri hadhihi l'umma illa bima saluha bihi amru awwaliha » Il disait, rahmatullahi alayhi, le seul moyen pour la fin de cette communauté, les dernières parties, les derniers composants de cette communauté, d'être dans la droiture, de voir leur situation correcte, c'est qu'elle soit, leur situation, équivalente ou comme celle des premières parties de cette communauté-là. Ce qui a fait que la première partie de cette communauté-là était dans la droiture, c'est ce qui fera que la dernière partie de cette communauté le sera aussi. Et vous avez vu, quand il y a des musulmans, des fois, ils voient l'injustice, ils voient l'égarement, ils voient beaucoup de choses mauvaises. Alors ils cherchent des solutions pour redresser les choses. Il y en a dit qu'il faut faire de la politique. Il y en a dit qu'il faut faire des manifestations. Il y en a dit qu'il faut faire... Bref, chacun il propose ce qu'il veut. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Le meilleur moyen, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur moyen, c'est d'obéir à Allah et à son messager. Et le meilleur moyen, c'est de faire cela comme les salafs ils l'ont fait. Les gens, justement, ils ne pensent pas à ça. Ils disent, ouais, mais vous vous priez, vous faites des cours à la mosquée, vous apprenez le texte par cœur, c'est avec ça que vous allez sauver la Oumma ? On répond oui. Oui, on répond oui. Sans aucune hésitation. Parce qu'à la fin des temps, on a beaucoup d'ahadiths qui nous disent que « yurfa'u al-ilm », la science, elle sera levée. Et comment est-ce qu'elle sera levée ? Par la mort des savants. Et à ce moment-là, les gens, ils seront entre eux, entre ignorants, et ils s'égareront. Et à la fin des temps, aussi, on nous informe que Allah il rendra aux musulmans leur suprématie, et qu'il leur donne, il les secourra, leur donnera la victoire. Donc à ce moment-là, quand ce sera l'islam qui régnera, il faudra bien des savants pour aiguiller et diriger les gouverneurs et les dirigeants. Eh bien, à ce moment-là, il faudra que cette science-là, elle persistera, elle demeurera jusqu'à ce moment-là, eh bien, les savants dirigent et aiguillent les gouverneurs et les dirigeants. Donc, il faut que la science reste et qu'elle subsiste obligatoirement. Et c'est un amen, c'est une sécurité pour la Oumma que les savants et les étudiants demeurent. Et plus les conditions de l'étude sont difficiles, plus le mérite est grand. C'est-à-dire que quelqu'un il vit en Mauritanie, par exemple, au Maroc, en Algérie, bref, dans un pays musulman, ou en Arabie ou ailleurs, et lui, sans aucune difficulté, il y a un chir là-bas, il va chez le chir, il apprend. Il n'y a personne qui lui dit il faut travailler, il n'y a personne qui lui dit il faut payer le loyer, il n'y a personne qui lui dit il faut faire... Il n'y a personne. Il est mortah, il est tranquille. Toi, tu vas rencontrer un étudiant qui a ton âge, tu vas t'asseoir avec lui, il va dire j'ai appris le Bukhari, j'ai appris le Muslim, je connais par cœur les 7 lectures, je connais, toi t'es comme ça, tu dis ah oh, ouais. Donc toi t'es là en France, tu fais des cours avec moi. J'ai dit punaise. Et t'as l'impression que tu vaux rien devant lui. Mais voilà, c'est faux. Pas parce que t'es avec moi, hein, non. C'est parce que tu t'accroches à la science, ici en France. Alors que tu vas à l'école, ou tu travailles, tu as des obligations, tu as des occupations, et pourtant, tu fais ce que tu peux pour avancer et pour étudier. Donc ce peu, avec cette difficulté auprès d'Allah, il est meilleur que beaucoup sans difficulté ailleurs. Et ça, il faut le garder en tête, mes frères. Et ce peu qu'on a, nous, ici, dans ces circonstances, Allah il va y mettre la baraka. Wallah, parce que la science qui est bonne, c'est celle qui te rend bon, quelle que soit la quantité. Parce que le but ultime de la science, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ça que ça sert. Amen, emmagasiner la science, apprendre par cœur tout ce qui existe, et être un pervers quand les yeux des gens ne sont pas sur toi, c'est pas ça qui fera de toi un savant auprès d'Allah azza wa jalla. Donc il faut vraiment garder ces choses-là en tête. Et c'est des choses que les salafs ils disaient depuis longtemps. Comment je suis arrivé à tout ça? Oui, le fait de refaire revivre la sunna. Donc Inch'Allah, demande Allah de nous permettre, dès que le ramadan il passe en heure d'hiver, on fera deux khatmas dans Tarawih, Inch'Allah. Hein? C'est la niya. Il faut toujours mettre la niya, mes frères. Salaf, il disait, tablughu niya, ma la yablughu l'amal. C'est-à-dire que l'intention atteindra des stades que l'action n'atteindra pas. Si Allah il nous permet, tant mieux. On aura la récompense de la niya et la récompense de l'action. Si Allah il ne veut pas cela pour nous, tant mieux. On aura la récompense de la niya même si on n'a pas fait l'action. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Et celui qui a l'intention de faire un bien et qui ne l'accomplit pas, il aura Allah, il lui inscrit quand même une récompense complète. Donc pourquoi passer à côté de cela? Et les salafis disaient, les ulama disaient, أَنِّيَّةُ تِجَارَةُ الْعُلَمَاءِ. L'intention, c'est le commerce des savants. C'est-à-dire, ils vont, avec leur intention, gagner plein de récompenses dans plein d'actions classiques et communes, ou bien sans même le faire, parce qu'ils en ont eu l'intention. Et aussi, je finirai là-dessus, cette grande parenthèse, il faut que nos intentions soient nobles. Et quand on parle de noblesse de l'intention, ça fait référence à pourquoi est-ce qu'on va le faire, donc pour Allah Azza wa Jal, pas pour que les gens ils disent « regardez ce qu'ils font », il ne faut pas s'intéresser à ça. Et la seconde, il faut que cette intention noble soit ambitieuse. Il ne faut pas que tu te contentes du minimum. Tu te dises, j'ai l'intention, Inch'Allah, de rajouter rak'atayn. Non. Je vais rajouter 8 rak'a, dans lesquels je vais lire 6 hizb. Dans 8 rak'a. Ça fait 3 quarts de hizb par rak'a. D'accord? Donc soit un hizb et demi par rak'atayn, soit 6 hizb sur 8 rak'a. J'ai déjà calculé, ne croyez pas que j'ai besoin de faire ça avant. Ça, j'ai préparé chez moi, j'ai galéré, j'ai fait des coupes opérations et tout ça. Mais il faut que l'intention soit noble. Il faut être ambitieux, mon frère. Les gens sont ambitieux dans le dunya, nous, on va être ambitieux dans l'akhira. Les gens sont ambitieux dans l'argent, nous, on va l'être dans l'adoration. Et Al-Hassan Abbas, rahmatullah alayhi, disait, « إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَتَنَافَسُونَ فِي الدُّنْيَا فَنَافِسُهُمْ أَنْتَ فِي الْآخِرَةِ. » Quand tu vois les gens rivaliser dans le dunya, rivalise-toi avec eux dans l'akhira. Dans quel sens ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que quand tu les vois rivaliser dans le dunya et faire des efforts intenses pour l'avoir, eh bien toi, rivalise avec eux dans les efforts fournis, mais dans l'akhira. Fournis autant d'efforts que voire plus, mais dans l'akhira. C'est ça ce qu'il a voulu dire, rahmatullahi alayh.